Sarah Brimboeuf, bonjour.
Bonjour.
La relaxe de Pascaline Bongo par la justice française, est-ce que c'est le signe que les faits de corruption que vous dénoncez habituellement au Gabon, eh bien, ils sont difficiles à prouver sur le plan juridique ?
Alors, en effet, c'est certain que les faits pour lesquels était poursuivie Pascaline Bongo lors du procès qui s'est tenu en février et dont on a eu le délibéré plus tôt cette semaine, il est certain que ces faits de corruption d'agents publics étrangers sont très compliqués à prouver. Le pacte de corruption, c'est un pacte opaque, secret, qui se déroule derrière des portes closes, donc la preuve par l'autorité judiciaire est très très compliquée à rapporter. En revanche, il faut faire la part des choses entre ce procès qui visait Pascaline Bongo et plusieurs acteurs français et d'autres procès qui impliquent également le Gabon et d'autres protagonistes gabonais qui auront lieu également devant la justice française mais qui portent sur des faits entièrement différents et des infractions différentes.
Alors, Pascaline Bongo était accusée d'avoir accepté d'intervenir pour aider un groupe français à s'implanter au Gabon, moyennant finance. À quoi elle a répondu au juge ? Mais montrez-moi un seul document que j'aurais signé avec ce groupe.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que le dossier... alors nous étions dans la salle d'audience, hein, nous n'avions pas accès au dossier en aucune qualité, mais il est certain que le dossier présentait des faiblesses de fond et de droit qui ont été relevées par la défense et qui expliquent en partie la décision du tribunal. Ce qu'on comprend, c'est qu'à l'époque, le tribunal ne pouvait se baser que sur un type d'infraction, la corruption d'agents publics étrangers. Or, il ressort de la décision du tribunal que Pascaline Bongo n'avait pas la faculté d'attribuer le marché public litigieux qui était concerné dans le procès. Donc on aurait pu s'appuyer sur une autre infraction, le trafic d'influence, mais il n'existait pas à l'époque des faits.
Et pour reprendre les propos de l'avocate de Pascaline Bongo, Corinne Dreyfus-Schmidt, est-ce que le parquet national financier français n'a pas été aveuglé, voire aimanté par la personne de Pascaline Bongo, qui en tant que fille d'Omar Bongo est évidemment une personne emblématique ?
Alors il est certain que lorsqu'on regarde la variété des cas qui passent entre les mains du parquet national financier, c'est qu'on ne juge pas selon des nationalités ou des identités, mais selon des faits, des infractions. Donc, je ne m'avancerai pas à commenter. Il est certain que Pascaline Bongo apparaît dans d'autres dossiers qui passent également, qui sont également entre les mains du parquet national financier, et que c'est en aucun cas parce qu'elle est la fille de son père ou la sœur de son frère qu'elle apparaît dans ces dossiers. Ce sont des faits, des infractions qui sont poursuivies, des faits précis, des infractions précises.
Alors, Pascaline Bongo est relaxée dans cette affaire, mais elle reste mise en examen par la justice française dans une autre affaire dans laquelle vous êtes très impliquée, Transparency International, c'est celle des biens mal acquis. Voilà des années que cette affaire est instruite par la justice française, mais toujours pas de procès en vue.
Alors, toujours pas de procès en vue. On arrive quand même, on voit qu'on est quand même, on est à plus de 10 ans d'instruction. C'est très long en effet, les faits restent complexes avec de nombreux protagonistes, à la fois côté Gabon, avec plusieurs acteurs gabonais, aussi côté français avec de nombreux intermédiaires, des banques, des notaires, des avocats. Ça explique la longueur de la procédure. Il y a beaucoup de recours. Dès qu'il y a des mises en examen, des saisies, il y a beaucoup de contestations, ce qui est un droit, hein, mais ça prend du temps. On ose espérer un procès fin 2025, début 2026, mais pas de procès en vue à court terme, en effet.
Ce qui est visé, c'est donc le patrimoine de la famille Bongo en France, tout particulièrement à Paris et à Nice, sur la Côte d'Azur. Avez-vous une idée de la valeur de ce patrimoine et peut-être aussi de l'origine présumée de ce patrimoine ?
Alors, sur la valeur du patrimoine, on est à plusieurs dizaines, on s'approche de la centaine de millions d'euros. Sur l'origine, eh bien, l'instruction est encore en cours, mais nous, en tant que partie civile plaignante qui avions déposé il y a maintenant bientôt 15 ans la première plainte qui a initié cette enquête, puis cette instruction tentaculaire, eh bien, à notre sens, il s'agit de blanchiment, de diverses infractions qui ont été commises sur le sol gabonais, détournement de fonds publics et infractions d'atteinte à la probité de type corruption, favoritisme. Donc évidemment, une instruction est en cours, hein, ce sera la justice de le juger, mais nous estimons que ce patrimoine a une origine qui ne peut être expliquée par des raisons légales. On distingue notamment en fait, les revenus officiels d'Ali Bongo lorsqu'il était au pouvoir et la décorrélation de ses revenus officiels avec son patrimoine, notamment en France, qui, comme je vous l'ai dit, atteint presque la centaine de millions d'euros.
Alors, sont mis en examen dans cette affaire une dizaine de frères et sœurs d'Ali Bongo, mais est-ce qu'Ali Bongo lui-même peut être poursuivi maintenant qu'il ne bénéficie plus de l'immunité liée au chef d'État ?
Alors, en effet, du fait du coup d'État qui a eu lieu l'été dernier, il n'a plus l'immunité dont il disposait, l'immunité d'exécution et de juridiction, donc il pourrait être jugé. Est-ce qu'il le sera ? C'est une stratégie de procès, une stratégie de... Est-ce qu'on décide d'élargir l'instruction sur sa personne? C'est une stratégie, c'est une décision qui sera entre les mains de la justice française, hein, du juge d'instruction qui pilote l'instruction à l'heure actuelle. Ça peut retarder, ça pourrait rajouter de nombreuses années encore à la procédure, donc je ne sais pas. Nous n'avons pas d'avis particulier, nous, sur la question, mais c'est une décision qui pourrait être prise, en tout cas pour l'instant, pas d'information ni d'un côté ni de l'autre sur ce qui sera décidé.
Oui, à vous écouter, il y a du pour et du contre.
C'est sûr que ça rallongera, on rajoute un auteur et pas des moindres, enfin, je veux dire, un protagoniste et pas des moindres, donc c'est certain que ça rallongerait une procédure déjà extrêmement longue, même en connaissant les délais de la justice, 15 ans d'instruction. On parle de faits qui ont eu lieu au début des années 2000, c'est pas un impact négligeable.
Alors c'est vrai que si la personne d'Ali Bongo est introduite dans le procès à venir des biens mal acquis, ça risque de retarder la procédure de plusieurs années. Mais d'un autre côté, peut-on imaginer un procès sur les biens mal acquis au Gabon sans qu'on entende l'ancien chef de l'État Ali Bongo?
Alors, on peut l'entendre en qualité de témoin. Il y a plusieurs statuts qui existent. Ça sera encore une décision sur laquelle Transparency préfère ne pas se prononcer. Nous avons le statut de partie civile, de coplaignant, et nous faisons confiance sur ce point à la justice, au juge d'instruction qui dispose du dossier. Si, en fonction de l'avancée du dossier, eh bien, nous ne serions pas d'accord par les décisions qui sont prises, notre statut de partie civile nous autorise à faire des observations, à potentiellement encourager la prise de certaines directions dans l'instruction, et nous les prendrons au moment venu. Mais à ce stade, nous observons et nous ne prenons aucune décision de ce type.
Est-ce que ça vaut pas la peine d'attendre?
C'est une bonne question, on répondra au moment donné.
Et maintenant que la dynastie Bongo est tombée, est-ce que le régime gabonais de transition coopère avec les juges français qui instruisent ce dossier pour faire avancer l'enquête sur les biens mal acquis?
Alors sur la coopération, je ne sais pas exactement. Je sais simplement que le Gabon s'est constitué partie civile et en cas de condamnation des personnes poursuivies et éventuellement de confiscation du patrimoine qui a été identifié en France et saisi, eh bien le Gabon pourrait, en tant que partie civile reconnue et donc victime, pourrait obtenir une créance de dommages et intérêts qui serait payée sur ce patrimoine.
Depuis la fin du mois de septembre, Nourdine Bongo, le fils de l'ex-président Ali Bongo, et plusieurs de ses collaborateurs sont incarcérés et poursuivis pour détournement massif de deniers publics et malversation financière internationale en bande organisée. Ces personnes-là risquent donc d'être jugées également. Est-ce qu'on va donc assister à deux procès parallèles, le procès en France des biens mal acquis et le procès au Gabon de Nourdine Bongo et de ses comparses?
En tout cas, les deux procès ont leur vie propre. Les poursuites au Gabon n'éteindrait pas les poursuites en France parce qu'en France, on ne vise pas l'infraction d'origine, c'est-à-dire l'infraction, la première infraction qui peut être la corruption, qui peut être le favoritisme, le détournement de fonds publics. On vise le blanchiment sur le sol français. Et donc, on pourrait en effet envisager une hypothèse où deux procès en parallèle ou se suivant à quelques mois, quelques années d'écart interviendraient. C'est tout à fait possible en effet.
Et est-ce qu'il pourrait y avoir des croisements entre ces deux instructions et entre ces deux procès?
Alors là-dessus, je ne peux pas vous répondre avec précision. Les faits sont précis, sont circonscrits dans le temps. Les protagonistes peuvent différer également. Donc ce sont également des choix, des stratégies de procès qui restent entre les mains des juges d'instruction qui pilotent les dossiers. Donc si pour une bonne économie de la justice et pour la bonne avancée du procès, il y a des synergies et des liens de coopération internationale, je pense que les juges prendront les décisions qui s'imposent, mais ce n'est pas une obligation. C'est un choix et ça se décide en regardant l'ensemble des faits qui font l'objet de l'instruction.
Sarah Brabeuf. Merci.